Voilà, comme chaque dimanche, nous voulons ouvrir la parole de Dieu pour puiser dans l'Écriture les bonnes choses. Nous avons dit que cette parole était source de vie, alors nous voulons la lire. Un passage dans l'Évangile de Marc, chapitre 14, les versets 1 à 11, qui serviront de point d'appui pour la prédication de Roger tout à l'heure. On était à deux jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les interprètes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeute parmi le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur, de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux, « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'Évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. » À la suite de cela, Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de leur livrer Jésus. Sa proposition les réjouit et ils lui promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus.
Je ne sais pas si vous aimez les cerises. Ça tombe bien parce que j'ai tout un paquet là. Oui, alors il faut attendre juste un petit moment parce qu'il y en a. Et il y en a 73 cerises. Ma femme les a comptées. Pourquoi 73? Parce que dans les années 50, le décalage entre les pays dits pauvres et les pays riches était de 1 à 30. Dans les années 90, environ 1 à 50. Et aujourd'hui, on dit 1, en prenant tous les éléments en considération, 1 à 72. Ce qui veut dire que 73 sugus. La bonne nouvelle, il y a des sugus. La mauvaise nouvelle, c'est que vous en avez un sugus, et moi, j'en ai 72. Ça, c'est pour vous tout à l'heure. Les pauvres parmi nous, ils n'ont qu'à bosser. Ça, c'est pas notre discours, et je voulais juste le signaler, le souligner, parce que en mettant les deux sauts, le culte au film qu'on a vu ensemble dimanche dernier, on a vu cette petite Laotienne qui devait prendre ses deux sauts beaucoup plus grands que ça sur son épaule avec son bout de bois pour ramener l'eau à la maison. C'est comme si ces sauts sont trop petits, ça devait être plus grand. Mais c'est comme si chaque jour, Rachel Meyer, par exemple, devait venir chercher l'eau ici et retourner à la maison en portant ça matin et soir. C'est trop près, oui. Voilà une histoire qui sera racontée dans le monde entier. Il y a une histoire similaire dans l'évangile de Luc, où il y a une femme pécheresse qui se présente dans la maison de Simon également, mais là c'est Simon le pharisien, et ça va être dit parce que sa grande dette a été remise, elle a beaucoup aimé. L'histoire que nous allons suivre ce matin est un peu différente. En effet, Simon le lépreux, il y aura du parfum répandu aussi. Il s'agit donc aussi de deux femmes, mais il y a des différences. C'est pas la même histoire. Notre contexte, Lazare, frère de Marie et de Marthe, était décédé. Jésus l'a ramené à la vie, mais Jésus, lui, sera bientôt livré à la mort. Un temps sombre et un geste d'autant plus éclatant. On va le suivre en trois étapes. Il y a ce parfum de la générosité qui va se faire sentir. Il y a les pauvres parmi nous qu'on aimerait découvrir, qui sont-ils? Et puis, nous allons considérer qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, les pionniers du royaume. Le parfum de la générosité. Grand valeur dans la version que nous avons écoutée, grand prix dans d'autres versions. Aujourd'hui, parler de grand prix, ça évoque autre chose, tourner en rond à grande vitesse. Il y a des gens intelligents qui aiment ça, paraît-il. Hein? Mais d'autres diront c'est le parfum du gaspillage. La Bible, quand elle parle du grand prix, on se souvient du marchand de belles perles qui, un jour, a trouvé une perle de grand prix, et il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait pour acquérir cette perle de grand prix. Donc, ça évoque quelque chose de très coûteux. Mais le mot grand prix vient ailleurs dans la Bible en évoquant un esprit doux et tranquille des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Quelque chose de très précieux devant Dieu. Jean nous apprend dans son évangile que Lazare était présent là quand ils étaient autour de la table à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Vous imaginez un petit peu la joie autour de cette table. Marthe qui raconte, mais mon frère, que voici, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et voilà que sa sœur Marie arrive et entre dans la pièce tout doucement, tenant un vase d'albâtre, parfum de nard pur, très coûteux. Elle va briser le vase et répandre le contenu, tout. 300 deniers dans nos vieilles versions. Traduction, 300 jours de travail, une année de salaire. À vous de traduire, 50 000, 80 000, 100 000 francs, d'un trait, tout. En réalité, il s'agit très probablement d'un héritage familial, donc passé de génération en génération, donc on peut espérer que Marthe et Lazare sont au courant et d'accord. Parce que c'est tout. Tout donné. Et l'ambiance passe de la joie à l'adoration. La reconnaissance. Leurs larmes d'il y a seulement quelques jours ont été changées en allégresse. Et maintenant, rien n'est trop extravagant pour leur sauveur. Ils ont tout reçu librement. Comment ne pas tout donner en retour? Et puis vient la douche froide. À quoi bon? C'est dans notre texte. À quoi bon? Disent certains. L'odeur est toujours là, mais elle n'est plus bonne. On parle de gaspillage. À quoi bon perdre ce parfum? On a vite fait le calcul, oui, une année de salaire. Ça ne plaît pas au gestionnaire. La dépense ne peut pas se justifier. Trop extravagant, pas raisonnable. De bien meilleure utilisation d'une telle somme. S'agissait de quelques mécontents, Matthieu, dans son évangile, qui raconte la même histoire, va préciser qu'il s'agit de ses disciples, les disciples de Jésus. Alors, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison? Les besoins en Palestine, à l'époque, c'est pas certainement moindre que dans nos pays pauvres d'aujourd'hui. Une famille n'avait pas les moyens tout simplement pour soutenir, porter des membres non productifs, les malades, les handicapés, pour ne pas parler des veuves et d'orphelins. Alors, comment comprendre ce geste de Marie accueillie par Jésus? Est-ce que le parfum de la générosité est tourné au vinaigre? Qui sont les pauvres parmi nous? On nous met sur la piste en évoquant, en considérant la situation désespérée au départ qui régnait dans le foyer de Marthe et de Marie à Bethanie. Deuil, plus rien à espérer, et puis une reconnaissance parce que Lazare leur était redonné. Même ambiance comme chez Simon le pharisien quand la femme de mauvaise réputation est accueilli par Jésus, ses nombreux péchés ont été pardonnés, donc elle a beaucoup aimé. J'ai dit, ça nous met sur la piste quand Jésus dit au verset 7, « Vous avez toujours les pauvres avec vous. » Parce que, de quoi il s'agit quand on parle de la pauvreté dans la Bible? Est-ce que c'est uniquement économique, matériel, ou est-ce qu'il faut penser autre chose? Est-ce que ce n'est pas que nous sommes tous des pauvres qui ont été secourus à un moment donné? Que nous sommes tous des malades qui ont besoin du médecin? Quand on considère la pauvreté dans l'Ancien Testament, la première partie de nos Bibles, la bienveillance demandée, c'est comme un refrain. Jacques Blandonnier, dans son livre, va parler de la trilogie de la pauvreté, c'est-à-dire l'immigrant, l'orphelin et la veuve. C'est presque toujours enraciné dans une exhortation « Souviens-toi ». Souviens-toi, tu étais étranger. Tu étais dans la misère la plus noire quand du temps de l'esclavage, et ton Dieu t'a délivré. Garde-toi de l'oublier. Le Seigneur, ton Dieu, t'en a libéré. Et il me semble que ce n'est pas différent dans le Nouveau Testament. Ici, dans les deux cas évoqués, elles ont tout reçu gratuitement. On peut penser à Zachée, le collecteur d'impôts aux poches profondes et jambes et bras courts. C'était un homme pauvre, même s'il était riche, qui, libéré, donnera spontanément, généreusement, le parfum de la générosité se fait sentir aussi dans sa maison. Jacques Blandonnier a dit, la richesse rend généreux quand elle est reconnue comme manifestation de la générosité divine envers les pauvres que nous sommes. Donc, nous l'avons compris, venir en aide des pauvres n'est pas faire de la charité, ni apaiser sa conscience, pas pour Marie, plus que pour nous. Une telle attitude ne répand pas une bonne odeur. Alors la pauvreté, c'est quoi finalement? Dans la Bible, c'est des choses très diverses. Oui, ça peut être économique et matériel, comme Noémie et Ruth, qui rentrent sans rien dans leur pays. Il peut avoir la pauvreté dite sociale, la solitude, absence de droit à la parole, donc pas d'éducation, les femmes pas de place dans la société, etc. Pauvreté physique, psychique, maladie, handicap, vieillesse, angoisse, oppression. Oui, il s'agit de la pauvreté, parce que quand Jean a envoyé ses disciples vers Jésus, Jean en prison, il a demandé, mais est-ce que tu es celui qui devait venir, ou est-ce que nous devons attendre un autre? À Jésus de répondre, les boiteux marchent, les aveugles voient, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et ça peut être la pauvreté spirituelle, absence de sens à la vie, poids de culpabilité, notre pécheresse, le publicain, des pauvres qui trouvent secours. Et cette pauvreté-là est toujours avec nous. De quoi nous tétaniser devant tant de besoins? Non, Marie nous enseigne que ça n'exclut pas l'adoration. Ça n'invite pas à la résignation. Parce que l'invitation de Jésus aussi est d'agir. Vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais il y avait une question de motivation à clarifier d'abord. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Si seulement Israël avait suivi les prescriptions qui leur étaient données, vous imaginez l'année de jubilé, la remise de toute dette. Mais qu'est-ce qu'ils auraient été différents des autres pays qui les entouraient? Et nous, l'Église, les pionniers du royaume, nous qui sommes signes annonciateurs de ce monde nouveau où la justice régnera. Qu'en est-il de nous? Que faire? Alors, il y a des choses qui se font. En ce moment, en Afrique du Sud, un grand rassemblement de chrétiens de tendance évangélique suite à Lausanne, c'était en 74, il me semble, ensuite Manille, maintenant l'Afrique du Sud, un grand rassemblement pour que soient débattues quelles sont les vraies priorités dans notre monde d'aujourd'hui pour nous chrétiens évangélique. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à aller en Afrique du Sud, mais nous pouvons aller à la place des nations, ici à Genève, cet après-midi à 15h. Notre rôle, alors, devient en priorité de lutter contre la pauvreté, l'évangile social, dans le sens purement économique de la pauvreté, non. Dans le sens biblique de la pauvreté, oui, venir en aide à l'homme pauvre dans sa globalité. Nous croyons toujours qu'il ne profite pas à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Mais nous entendons aussi l'appel biblique pour plus de justice, plus d'équité. Donc il y a assez de sugus pour tout le monde. Nous soutenons un travail d'évangélisation à Poitiers. On va entendre parler d'une situation à Lille la semaine prochaine. Mais aussi, nous sommes concernés par un projet de microcrédit au Congo. Pourquoi Daniel Schrubin et Francine Parnigoni sont allés accompagner Fanny Uketi? Nous croyons que chacun doit entendre que Jésus est seule source d'eau vive qui apporte la vie. Mais nous ne pouvons pas rester sans compassion, indifférents, quand nous voyons que des milliers, pour ne pas dire des millions, doivent chercher de l'eau dans une rivière sale et essayer de se subsister ainsi dans notre monde d'aujourd'hui. Nous envisageons une fête de Noël tournée vers l'extérieur pour communiquer la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ pour tous les hommes. Mais aussi nous relançons le projet de paquet de Noël pour les démunis dans les pays de l'Est. Nous sommes concernés par l'homme dans tous ses besoins. À quoi bon, ont dit les disciples. Non, c'est pas là notre discours. Mais peut-être certains sont en train de penser, mais si seulement ma situation était autre, si j'étais plus jeune, je ferais plus. Ou quand je suis retraité, je vais m'y lancer. Si j'étais marié, on se lancerait à deux en faveur des pauvres. Si j'étais célibataire, j'aurais plus de temps. Si j'étais mieux loti, je ferais beaucoup. Si j'avais moins d'engagement financier, je pourrais faire quelque chose. Elle a fait, dit notre texte, au verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Et ainsi, un signe fort a été posé concernant Jésus et son royaume. Le doux parfum de la générosité a rempli toute la pièce. Nous sommes appelés à faire de même. Même si on ne va pas en parler dans le monde entier, nos frères et sœurs dans le besoin ont besoin d'être rappelés que nous formons un seul corps. On est appelé à partager sans trop calculer. Si c'est que participer au commerce équitable, vous savez, moi qui aime le foot, j'ai appris que pour un maillot de la Nati qui coûte au moment de la Coupe du Monde autour des 100 francs, la couturière qui fabrique ça reçoit 30 centimes. 30 centimes. Nous partageons, il est assez pour nous tous pour répandre le parfum de la générosité. Elle a fait ce qu'elle a pu. Un don démesuré, en pensaient certains. Si je comprends bien, dans notre budget d'église, notre trésorier va me corriger. Nous donnons environ 1000 francs par semaine à notre fédération pour aider dans les deux directions. C'est fantastique. Mais ne levons pas le pied, et je ne dis pas ça pour tranquilliser Philippe et notre trésorier, parce que avec peu, nous pouvons faire tant. Un parrainage d'enfants, Aurélie, je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, 42 francs par mois, transformer la vie d'un enfant. On peut parrainer un évangéliste en Inde avec Ampar ou avec OM pour plus ou moins la même somme. Une opération des yeux en Afrique, Tony. J'ai vu dans les brochures de l'AME, on peut contribuer pour 100 francs, plusieurs personnes vont recouvrir la vue. Nous pouvons faire beaucoup avec peu. Il y a une table avec des suggestions d'or. Coûteux de partager, Dieu le sait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Nos sacrifices ne seront que reflets de son sacrifice. Coûteux, mais aussi précieux devant Dieu, d'un grand prix. Ce parfum de la générosité que nous sentons est appelé à se faire sentir en dehors de nos murs, partout dans le monde où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. Nous sommes pionniers de son royaume. La bonne nouvelle n'est pas laissée de côté, les pauvres non plus. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On n'en parle pas trop, mais ce que nous faisons pour le Seigneur n'est jamais oublié. Nous prions. Seigneur, tu nous offres cette opportunité de considérer ta venue. Toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre afin que dans notre pauvreté, nous soyons enrichis. Seigneur, nous demandons de ce que tu nous montres, ce que tu nous montreras, puisse effectivement être traduit en acte à l'instar de Marie. À la gloire de ton nom. Amen.